when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Bonjour à tous. Avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société Neria. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute!
Bienvenue dans ce nouveau podcast Advocate, podcast destiné à vous faire découvrir la vraie vie des avocats, quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie, exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant des méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on transfère aux avocats les compétences nécessaires pour développer leurs activités et leur permettre de réussir sur leur marché. Aujourd'hui, nous vous présentons Frédéric Niel, avocat au parcours atypique, qui a débuté en tant qu'expert comptable et commissaire aux comptes avant de devenir directeur financier. Sa transition vers le métier d'avocat s'est faite de manière inattendue, le conduisant à se spécialiser en fiscalité et en droit pénal. Fort d'une expérience diversifiée, il observe des lacunes dans la compréhension des entreprises au sein du monde juridique. Au cours de ce podcast, il va nous parler de son parcours, de ses expériences et de son choix de se concentrer sur la défense juridique qui le passionne. Nous espérons que ce podcast vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le diffuser et en parler autour de vous. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne découverte de la conversation entre Valentin Tonti-Bernard et Frédéric Niel.
Eh bien écoute, bonjour Frédéric Niel, je suis ravi que tu me reçoives dans tes bureaux, aux 2 rues du Frenois dans le 16e arrondissement à Paris, dans des locaux magnifiques avec de très beaux tableaux. Salut Frédéric.
Salut Valentin, merci beaucoup et bienvenue dans nos nouveaux locaux.
Eh bien, c'est vrai que c'est de nouveau en plus. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. Ma première question est toujours la même et j'espère que tu as écouté 2-3 podcasts avant ça. C'est qui étais-tu avant de devenir avocat?
Ouais, j'ai écouté quelques podcasts justement pour savoir comment aborder le mien et j'ai été assez stupéfait des balbons, attiré par l'unicité des histoires. Mais je ne remets pas du tout en cause les histoires de mes propres confrères, mais ils ont tous comme point commun d'avoir rencontré un personnage incroyable dans leur jeunesse, souvent, ou dans leur stage, ou dans leur début. Et moi, ce n'est pas du tout mon cas, pour une bonne et simple raison, c'est que moi, malgré un âge relativement avancé, je suis un jeune avocat. J'ai eu une vie professionnel assez chargé avant de devenir avocat.
T'es passé par quoi? T'as fait quoi?
Alors, si je remonte à la genèse, j'ai fait des études de 3 sortes différentes. Des études financières, j'ai un diplôme d'expert comptable et de commissaire aux comptes, un doctorat de gestion, j'ai un DESS de droit des affaires, l'origine de mes études, et j'ai fait un master d'économie aux États-Unis. Et j'ai ensuite fait un master 2 en droit fiscal et un master en droit pénal récemment. Voilà. Donc, initialement en financier, avec un volet économique et juridique. J'ai commencé donc comme expert comptable et commissaire aux comptes, et puis au bout de 6 ans, c'est un métier qui m'a pas donné pleine satisfaction. J'avais une espèce de frustration de n'être que le comptable. Il n'y a pas de distinguo entre expert comptable et comptable, dans la vision de beaucoup de gens. Et je voulais voir un petit peu ce qu'il en était de l'intérieur dans une entreprise. Donc j'ai souhaité être directeur financier. J'ai eu un peu de mal parce que j'ai été catalogué comme comptable. Mon père disait un comptable, c'est jamais qu'un con derrière une table. Je ne sais pas si c'est le terme qui s'impose, mais il y a un peu de vrai dans tout ça. Et en tout cas, c'est perçu un peu comme ça. Donc, j'ai voulu aller de la comptabilité à la finance. C'est jamais très simple. Et pour ce faire, j'ai fait un choix complètement ridicule de prime abord. Je suis parti à Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, c'est très, très loin. C'est à côté du Canada. C'est la seule île où on n'a pas envie d'aller. Un caillou de 25 km2. Pour aller faire tout à fait autre chose, j'étais directeur du développement économique dans une société à cet endroit-là, et j'ai vendu le concept même de l'archipel, sa défiscalisation, etc. Donc j'ai fait des projets sur de la loi Ponce, de la recherche gazière et pétrolière en zone économique exclusive française, avec des entreprises canadiennes, américaines, etc. Et c'est en revenant de Saint-Pierre-et-Miquelon, 3 ans après, que j'ai enfin intégré un boulot de directeur financier, en l'occurrence chez Decathlon. Mais la grande entreprise n'était pas faite pour moi. Donc après, j'ai navigué d'entreprise en entreprise, plutôt dans des postes de direction générale ou de direction juridique. J'ai fait le choix, il y a une quinzaine d'années, de me mettre à mon compte et d'essayer de mettre au profit d'entreprises en difficulté, on va dire, une capacité à analyser très rapidement une problématique pour essayer de faire en sorte que l'entreprise sorte de ses difficultés, de sa difficulté. Donc le cas d'une fusion, le cas d'un rachat, le cas d'une entreprise en liquidation ou redressement judiciaire, plus exactement. Donc de diriger ou d'administrer, de chercher un repreneur, etc. Donc gros parcours, à la fois financier, juridique évidemment, mais surtout de dirigeant d'entreprise. C'était des missions plus ou moins courtes, mais qui pouvait durer de 4 à 18 mois, 24 mois maximum, mais avec une dimension de chef d'entreprise assez importante dans des situations souvent complexes.
Est-ce que c'est ce qu'on pourrait qualifier de manager de transition ?
Exactement, exactement. Okay. C'est du management de transition. À ceci près, c'est moi, je l'ai fait tout seul dans mon coin, avec mon propre réseau, et ça me suffisait bien, c'était sympa. Voilà. Après, j'ai fait... je vais qualifier ça de bêtise, c'est pas une bêtise, en fait, c'est ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. C'était donc une bêtise qui s'est transformée en opportunité. Après presque 10 ans de management de transition, on va dire, à mon compte, j'ai eu une opportunité de redevenir salarié. Et j'ai pris cette opportunité avec un salaire magnifique. J'étais directeur général finance dans une SS2I, 1000 personnes, très beau poste, très belle rémunération, très bel endroit sur les Champs-Élysées, voiture de fonction, tout allait bien. Tous les clignotants étaient ouverts et ça brillait. Je me suis dit, bon, c'est un beau bâton de maréchal pour finir ma carrière, sauf que j'avais 47 ans et qu'il en restait encore 20 à faire, et ça a duré 4 mois. Et en fait, c'était un échec cuisant, parce que, après avoir été indépendant aussi longtemps, je crois qu'on ne peut pas redevenir salarié et rendre des comptes de manière hiérarchique à quelqu'un. C'est très compliqué. Voilà, j'ai toujours eu une vision d'entrepreneur en moi, et ça, c'était compliqué pour moi. Et j'ai fait la connaissance à ce moment-là de Clarisse Sand, je la connaissais un petit peu avant, qui m'a tout simplement proposé de la rejoindre dans son cabinet. À l'époque, le cabinet Sand faisait de la fiscalité, deux parties, conseil et contentieux. J'y connaissais pas grand-chose, même si j'avais quand même quelques notions. Et donc, j'ai accepté cette offre. Voilà. Pas comme avocat, je l'étais pas. Donc, je suis rentré comme juriste, tout simplement. Et là, je me suis rendu compte que dans un cabinet d'avocat, un juriste, ça n'a aucune valeur. C'est-à-dire que l'avocat, il y a l'associé, il y a le collaborateur, il y a le stagiaire, il y a le juriste, et il y a éventuellement le back-office derrière, mais c'est tout. Donc, j'avais des petits gamins fort compétents, mais qui étaient en stage d'avocat ou qui étaient déjà avocats depuis 4 ou 5 mois, qui me regardaient comme si moi, j'étais un pastiféré. Et je me suis dit, il n'y a pas de miracle pour arriver à performer et à rester dans ce secteur, il faut devenir avocat. Donc j'ai repris des études. J'ai fait donc un master 2 de droit fiscal et un master de droit pénal. Et j'ai réussi, par le biais de l'article 98, à devenir avocat.
Très clair.
Voilà.
Quand tu travailles dans ta vie professionnelle précédente, que ce soit en tant que manager de transition, en tant que DG, en tant que DAF, en tant que DG à la finance, tu travailles dans beaucoup de secteurs d'activité, de ce que je comprends.
Quasiment, à part l'agriculture dans laquelle j'ai travaillé dans les services, dans l'industrie, dans la grande distrie, Decathlon, l'industrie dans des entreprises de packaging notamment, dans des entreprises industrielles qui fabriquaient des ponts élévateurs, dans les services, ça peut être dans des boîtes qui vendent ou qui proposent des logiciels, qu'est-ce qu'il y a eu dans la téléphonie, dans tout ce qui est développement économique, quand j'étais à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur des secteurs très variés. J'ai travaillé par exemple pour faire venir sur Saint-Pierre-et-Miquelon des lamas et des alpagas du Pérou pour les faire entrer sur le territoire nord-américain. C'est difficile à dupliquer ensuite, hein, mais c'est quelque chose qui est unique, qui est inédit. Et quand on fait ça à 27-28 ans, c'est magique.
C'est assez incroyable. Et moi, ce que je trouve d'autant plus incroyable, c'est que tu puisses apporter ta valeur ajoutée à ce secteur d'activité, et notamment au marché des avocats. Parce que pour les fréquenter depuis quelques temps, toi, tu as fait plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans d'autres secteurs d'activité, dans d'autres entreprises, dans d'autres organisations. Qu'est-ce que, avant qu'on parle de toi en tant qu'avocat, etc., qu'est-ce que tu remarques dans les cabinets d'avocats et le mode de fonctionnement par rapport à ce que tu as vu avant ? Qu'est-ce qui te choque ? Qu'est-ce qui te heurte ?
Deux choses, alors, je vais dire qui me choquent, mais qui m'ont un peu surpris, en fait, quand j'ai découvert ce monde d'avocat. C'est une assez grande méconnaissance de ce qu'est une entreprise. Un cabinet d'avocat est une entreprise. Aussi petit soit-il, ce cabinet, il est une entreprise, même individuelle. Et parfois, même des gros cabinets, des cabinets avec 15-20 avocats, se considèrent comme des cabinets d'avocats, mais pas comme des entreprises. Donc, le souci de la rentabilité, de l'efficacité, de la gestion de trésorerie, etc., est quelque chose d'assez absent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, parce que c'est quelque chose qui a été prégnant dans toute ma carrière, c'est le management positif, c'est-à-dire faire en sorte que les gens se plaisent dans leur travail, apprennent des choses, apportent à l'entreprise, mais que l'entreprise leur apporte aussi, les faire grandir, les faire mûrir, les faire évoluer. Ça, c'est le côté positif du management. Et le côté négatif, c'est que il n'y a pas de secret. Parfois, il faut se séparer de gens parce qu'on n'a pas le choix. Le management, j'ai jamais vu de management dans un cabinet d'avocat. C'est très, très rare. Alors, peut-être à cause, justement, de cette distinction qui existe entre l'associé, le collaborateur, et ainsi de suite. Peut-être tout simplement parce que ça n'est pas appris dans les écoles de droit, et que c'est en forgeant, qu'on devient forgeron, et que malheureusement, on ne forge pas beaucoup dans ce secteur-là. Voilà, il y a un grand distinguo quand même entre l'associé et le collaborateur.
Et du coup, tu t'es mis dans quelle position quand tu es arrivé ? Plutôt dans la position d'apprenant, où tu t'es dit, en fait, maintenant, je rejoins, ou j'ai envie de rejoindre le métier d'avocat, il faut que je devienne un pur avocat, entre guillemets, ou est-ce que tu t'es mis dans une double position, c'est-à-dire en même temps d'apprenant pour apprendre le métier, la pratique et devenir avocat par l'intermédiaire de l'article 98, et en même temps dans une position où tu allais apporter ce savoir que tu avais acquis dans toute ton expérience précédente pour finalement former une forme d'avocat unique, ouais. À la fois en capacité financière, comptable, de chef d'entreprise, de décideur, de manager, alors, et en même temps, ses capacités d'avocat.
C'est une excellente question, parce que c'est la question à laquelle j'ai essayé de répondre en rejoignant Clarisse Sand. Quand je l'ai rejoint, ma connaissance technique n'était pas suffisante pour gagner une rentabilité. Or, moi, j'ai un atavisme financier, c'est-à-dire que ce que je coûte doit, d'une manière ou d'une autre, se retrouver dans une rentabilité, fois 2, fois 3, peu importe le ratio. À partir du moment où je suis arrivé dans ce cabinet en coûtant un certain prix, puisqu'elle a eu la sympathie, la gentillesse de me prendre à un niveau de revenu relativement important, il fallait que j'apporte à ce cabinet, au minimum, ce que je coûtais, sans être avocat. Donc, ma première démarche, ça a été de dire, je vais faire ce que je sais faire. C'est-à-dire que je vais faire du management de transition. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce cabinet ? Qu'est-ce qui n'allait pas ? Des trucs très simples. Est-ce que tous mes clients sont facturés ? Non. Est-ce que tous les clients que j'ai facturés ont payé ? Non. Comment je fais pour facturer ? Comment je fais pour m'assurer que 100% de ce que je produis donne lieu à une facture, premier point. Deuxième point, comment je fais pour que 100% de ce que je facture me soit payé dans un délai normal. Ça, ça a été résolu en 3 mois. Ensuite, ça a été quelle dimension managériale on peut avoir. Il y avait un collaborateur, il y avait une stagiaire, il y avait moi, on était 4 tout petits. Mais Clarisse est une avocate 100% pur jus qui s'est faite elle-même, etc. Donc, qui a les défauts que je disais tout à l'heure, défauts, qui a l'atavisme de l'avocat qui ne sait ni gérer ni manager. Et donc, je l'ai vraisemblablement aidé, à défaut de la substituer complètement là-dessus, je l'ai certainement aidé dans sa capacité managériale à embaucher, à parfois se séparer parce qu'il fallait le faire, etc. etc. Donc, ma première, je dirais, approche a été celle-ci. Mais parallèlement, j'ai voulu montrer, et je pense y être arrivé, de pouvoir générer suffisamment de business pour pas multiplier, mais en tout cas couvrir mon coût. Et l'objectif, je l'ai rejoint en mai 2015, si je dis pas de bêtises. L'objectif, c'est qu'en décembre de cette même année 2015, je sois rentable. Ça a été obtenu. Juste. Il n'y a pas fait de bénéf, je veux dire. Mais en tout cas, je n'ai pas été un coût ou une charge particulière.
Voilà, c'était break-even.
Ça s'est équilibré. J'étais break-even. Et bien évidemment, derrière, j'ai repris des études. Donc, tout en reprenant des études à distance, hein, c'était relativement simple, je reconnais, j'ai réussi l'année d'après, cette fois-ci, non pas à être break-even, mais à faire un petit peu de marge et à vendre finalement ce que j'apprenais au fil de l'eau à un tarif qui était quasiment le même que celui d'un avocat collaborateur, pas associé en tout cas à cette époque-là. Voilà.
Très clair. Moi, j'ai un truc que je trouve formidable, c'est déjà que tu aies fait le saut de l'entreprise avec toutes les fonctions et les jobs que tu as pu avoir par le passé et que tu te sois remis dans les études à 47 ans, ou en tout cas que tu te sois dit, je repars dans un marché, dans un métier où personne ne me connaît, où matériellement, j'ai des compétences, j'ai des connaissances, mais enfin, sans te faire affront, j'ai pas les mêmes de quelqu'un qui le fait depuis 23 ans au quotidien, 10 heures par jour. Comment tu relèves ce challenge-là? Qu'est-ce qui te donne envie de relever ce challenge?
Alors d'abord, je crois que c'est consubstantiel chez moi de pas avoir de crainte particulière de changement. Le premier changement, j'étais comptable, même si c'était expert, peu importe. Mon métier, c'était d'établir des comptes, de faire des comptes, de certifier des comptes en tant que commissaire aux comptes. Quand je passe de ça, quand ma volonté, plus exactement, c'est de passer ça à la finance, j'y vois une forme de logique. Manifestement, les recruteurs à l'époque ne voient aucune logique dans ça. Ils vont chercher des gens qui ont fait une école supérieure de commerce, ESSEC, HEC ou je ne sais quoi. Très bien, c'est le choix. Donc, pour arriver à malgré tout, intéresser des recruteurs, il faut que je passe par une case qui est une case commerciale. Donc, j'abandonne la comptabilité qui est un métier sombre, strict, assez fermé, poussiéreux, on va dire ça comme ça, à un métier d'expansion à Saint-Pierre-et-Miquelon où, à part sur place, tout l'environnement est anglo-saxon, donc il faut parler anglais, et il faut parler anglais à des investisseurs. J'ai 26 ans, 27 ans à l'époque, j'ai jamais rencontré d'investisseurs. Il y a des institutionnels sur place, un préfet, un président du conseil général, un député, machin. Je travaille pour ces gens-là. Je sais même pas ce que c'est qu'un préfet dans son rôle, dans ses attributions. Donc, je dois apprendre. Donc, ça, c'est une première rupture pour moi, professionnelle, sur une voie qui était toute tracée. D'ailleurs, tout mon entourage familial ou amical à l'époque m'a dit, mais t'es complètement idiot. Ta route est tracée. Pourquoi tu restes pas expert comptable? Mais parce que je m'ennuie. On va dire ça gentiment. Je m'emmerde pour dire ça, franchement. C'est pas un métier qui me plaît. Je veux faire autre chose. Mais pourquoi avoir fait ce choix d'études? Parce que c'est comme ça. J'ai fait des études parce que c'est à 18 ans qu'on choisit et je savais pas quoi choisir. Si, avec le recul, aujourd'hui, je ferai du droit et j'irai directement faire avocat. Bon. Donc, cette rupture-là, c'est pas un problème pour moi. Ensuite, dans la carrière que j'ai eue avant d'être avocat, les ruptures de secteur d'activité, passer d'une société de service qui propose, par exemple, des solutions logicielles, à une société qui fabrique des ponts élévateurs au fin fond du Loiret, ça n'a rien à voir. C'est pas le même langage à l'interne. C'est pas les mêmes personnes qui y travaillent. Des personnes qui travaillent dans une société industrielle, dans un bassin d'emploi extrêmement fermé, c'est des gens qui sont là, le père était là, le grand-père était là. C'est des parcours de vie qui ont duré 40 ans. Quand tu arrives là-bas, il y a 600 personnes et ton objectif, ou en tout cas ta mission, c'est de dire qu'il faut faire un plan social de 300 personnes. D'abord, t'es pas accueilli de la meilleure des façons et t'es loin du confort d'un beau cabinet de conseil à la Défense ou dans le 8e arrondissement à Paris. Donc ça aussi, c'est des ruptures importantes. Donc devenir avocat, pour moi, quand j'ai rejoint Clarisse, j'ai eu, je vais pas dire une révélation, parce que j'ai travaillé avec des avocats dans mes jobs différents, j'étais donneur d'ordre, en tout cas je les utilisais. J'ai eu aussi une vie personnelle où mon ex-épouse était avocat également. Donc je la voyais au travers de notre relation de couple, comment elle travaillait. Maintenant, je ne savais pas ce qu'était véritablement d'être avocat. Mais j'aime écrire, j'aime le verbe, j'aime la joute verbale. J'ai plein de passions dans la vie, dont l'histoire et la politique, et j'aime en débattre avec des gens qui ne sont pas du même avis que moi, sinon ça ne présente aucun intérêt. Et donc je me suis dit que finalement, avocat, c'était un peu ça, c'était défendre une conviction, une vérité, qui n'est jamais la vérité ou la conviction absolue, face à des gens qui sont convaincus du contraire. Donc c'est un débat, voilà.
Moi, c'est quelque chose que je trouve fascinant. On voit très, très peu des avocats qui ont son parcours, qui ont cette qualité-là, qui arrivent à se transformer, entre guillemets, à un moment, ou plutôt à changer de braquet pour devenir avocat. Et ma question, elle est simple. C'est comment, à 47 ans, lorsque tu décides de devenir avocat, tu arrives à utiliser les 20, 25 années préalables pour derrière en forger un avantage concurrentiel? Comment tu arrives à dire, moi, je ne suis pas seulement avocat? Je n'ai pas bouffé de la technique juridique et de la pratique juridique pendant 25 années. Mais par contre, j'ai autre chose. Et cette autre chose-là, ça m'est passé.
Alors, la réponse est un peu dans la question, finalement. L'élément différenciant, il est dans ma construction préalable, dans ma carrière, et surtout dans ce que j'ai appelé tout à l'heure l'atavisme financier. C'est-à-dire que j'ai, sans aucune prétention, un bagage financier très important. Donc, notre clientèle, à l'origine en tout cas, en matière de contentieux fiscal et de conseil fiscal, étant essentiellement constituée d'entreprises, PME, TPE, ETI, qui ont soit des besoins de conseil, soit des contentieux fiscaux importants, la compréhension, je vais pas dire immédiate, mais quasi immédiate, en tout cas en très peu de temps, de la structure financière, des enjeux financiers, des grands agrégats mathématiques et financiers et comptables d'une entreprise, elle est un élément différenciant par rapport à n'importe quel fiscaliste de la place. La technique fiscale en elle-même, c'est sûr qu'elle n'est pas comparable. Je ne peux pas me comparer à quelqu'un qui a passé 20 ans comme avocat fiscaliste ou qui a passé 20 ans dans l'administration fiscale puis est devenu avocat, ce qui existe assez souvent dans ce secteur. Et c'est là que la force, je dirais, de ce cabinet existe de prime abord. C'est la complémentarité entre Clarisse, qui est une grande spécialiste à la base de cette matière, et moi qui va apporter un regard un peu différent et surtout qui va pouvoir s'adresser à un dirigeant d'entreprise en parlant la même langue que lui. On a fait le même métier, ou en tout cas j'ai fait le même métier que celui qu'il est en train de faire, et donc je peux comprendre des problématiques que j'ai moi-même vécues quand j'étais à sa place. Voilà.
Ce que je trouve extrêmement rassurant. J'ai une dernière question, après on rentre dans le cœur du sujet sur ce que vous faites, votre positionnement, l'activité que vous avez, etc. Mais pourquoi t'es pas allé vers le M&A? Tu vois, on aurait pu se dire, quelqu'un qui fait 10 ou 15 ans en tant qu'indépendant avec son réseau perso, donc ça veut dire gros réseau pour pouvoir en vivre, en tant que manager de transition, en tant que personne à la tête d'entreprise, on peut se dire, il a un carnet d'adresses qui est colossal, il a travaillé dans des fonds, avec des fonds américains et des fonds canadiens qui sont venus s'implanter à Saint-Pierre-et-Miquelon. On aurait pu se dire, bah voilà, en fait, avec le réseau colossal qu'il a pu acquérir sur le secteur des fonds industriels, dans tous les secteurs que tu as cités, grande distrie, etc., on part sur du M&A, en fait, on va avoir un apporteur d'affaires qui sera peut-être moins technicien que les autres. Et quoi qu'il arrive, pour M&A, pour faire du M&A, je vais taper personne, mais c'est pas les plus grands techniciens qui font du M&A, sauf sur des opérations particulières. Il va tout casser.
Ouais, alors, la réponse, je crois qu'elle est... Je me suis jamais posé la question. Donc, ça veut dire que ça m'a jamais traversé l'esprit. mais je vais essayer d'y répondre en deux points. Le premier, c'est l'opportunité de Clarisse Sand, qui m'offre ça. Je suis pas certain qu'un cabinet en M&A m'ait proposé ça. Toujours pour la même raison, j'étais pas avocat, donc il aurait fallu que je le devienne avant. La deuxième raison, c'est que ça m'intéresse pas. Je crois que c'est ça. Pourquoi je suis devenu avocat? Non pas pourquoi j'ai rejoint Clarisse. J'ai rejoint Clarisse parce que l'opportunité qui se présentait et qu'elle m'offrait m'intéressait. Mais pourquoi je suis devenu avocat ensuite? Parce que c'est un métier qui me passionne. Point. Ce qui me passionne, c'est la défense. Pas le conseil. Le conseil, ça me saoule. J'aime pas faire du conseil. Je veux défendre. Du M&A, c'est du conseil. C'est la même différence qu'entre un expert comptable, puisque c'est mon métier initial, qui va faire la comptabilité du boucher ou du kebab du coin, et puis celui qui va intervenir pour Total. c'est le même diplôme, c'est pas le même métier.
Très clair, la réponse me va à 300%. Ça fait 8 ans que tu es au sein de ce cabinet, si mes calculs sont bons, tu es arrivé en 2015, on est aujourd'hui en 2023, même dans le dernier quarter 2023. Est-ce que tu vois de grandes évolutions par rapport à ton apprentissage, par rapport à la façon dont tu fonctionnes, au dossier que tu vas traiter? Qu'est-ce qui s'est passé sur les 10 dernières années?
Alors, oui, enfin, grandes évolutions, c'est une révolution, c'est même pas une évolution. Quand je suis rentré, maintenant on donne beaucoup de chiffres dans tous les sujets, on aime chiffrer les choses. Donc je vais me livrer à cet exercice. 95% de notre activité, c'était de la fiscalité. Conseil ou contentieux, à peu près moitié-moitié, les 5% restants étant des choses diverses et variées. Plutôt diverses que variées d'ailleurs. Aujourd'hui, la fiscalité doit représenter 5%, 10% de ce qu'on fait. Et uniquement en contentieux, je fais plus de conseils. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il s'est passé plein de choses. Il s'est passé le Covid, il s'est passé le fait que, individuellement, d'un apprenti, en tout cas de quelqu'un qui était en phase d'apprentissage, j'ai tendance à considérer que j'apprends un peu moins et que je sais un peu plus. Donc aujourd'hui, je produis plus que je n'apprends, et heureusement d'ailleurs. Et on a voulu changer, tout simplement. On a été aussi porté par le marché. Je pense que, pas que pour les avocats ou pas que pour nous, en l'occurrence, mais l'épisode du Covid, avec tout ce que ça a engendré comme modification dans l'approche du travail, dans le télétravail, dans beaucoup de choses, a été... Il y a un avant et un après. Voilà, du Covid. Nous, le Covid, ça s'est arrêté du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on faisait, jusqu'en mars 2020, beaucoup de fiscal et un peu de pénal fiscal. Un peu pas mal, mais c'était pas le truc le plus majeur. Le pénal s'est arrêté. Le 14 mars ou 16 mars 2020, plus de procès pénal, même les procès en assises ont été différés. Et le fiscal, ça s'est arrêté purement et simplement. On a dit aux gens dans l'administration fiscale, restez chez vous et vous ressortirez plus tard. Donc nous, l'activité s'est arrêtée du jour au lendemain. À partir de là, comme c'est notre activité et qu'il faut bien se nourrir, et donc il y a un côté matériel, je dirais, on a essayé de faire un petit peu tout ce qu'on pouvait. Alors moi, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait avant d'être avocat? Moi, j'ai fait de la procédure collective. Tiens, je vais essayer de faire de la procédure collective en tant qu'avocat. Bon, j'ai pas été le meilleur du monde, certainement, mais en tout cas, j'en ai fait un peu. J'ai fait un peu de contentieux commercial. J'ai fait un peu de droit social, parce que j'avais fait beaucoup de licenciements, beaucoup de PSE, en tant que dirigeant, pas en tant qu'avocat. J'ai essayé d'en faire en tant qu'avocat. En amont. Pas jusqu'à la plaide, parce que ça m'intéressait pas. Histoire de négocier. Et puis, une fois qu'on a touché à tout ça, on s'est dit, finalement, qu'est-ce qui nous plaît véritablement? Donc, on s'est recommencé. On est plutôt parti vers le pénal, mais pénal des affaires, donc pas uniquement fiscal, c'est aussi sur du droit du travail, par exemple, donc travail dissimulé, blanchiment de travail dissimulé, beaucoup de blanchiment en matière fiscale aussi, fraude fiscale, et puis de l'abus de biens sociaux, enfin tout ce qui touche au pénal des affaires, donc qui concerne les chefs d'entreprise ou les entreprises. Et puis est arrivé le dernier épisode, je dirais, sur la scène internationale, qui est la guerre en Ukraine, où... par le réseau, par un peu le jeu du réseau et parfois du hasard, de l'opportunité et de l'opportunisme aussi, mais c'est plutôt Clarisse qui en parlera, je pense, des dossiers internationaux. Elle y était déjà bien impliquée parce qu'elle a une passion pour le droit européen et le volet international du droit, sur des sanctions, et notamment les sanctions russes. Donc aujourd'hui, l'activité, comparativement à ce qu'il était il y a 8 ans, je disais 95% de fiscalité il y a 8 ans, aujourd'hui c'est peut-être 5 ou 10% de fiscalité, à peu près 30% on va dire de pénal, et le reste c'est des sanctions et du droit international.
Très clair. Voilà. Donc si je comprends bien et si je résume pour que nos auditeurs puissent nous comprendre, on a 60% de l'activité qui est dédiée au droit européen et aux sanctions, qui est majoritairement traitée par Clarisse.
Oui, je peux préciser un peu. Clarisse va beaucoup traiter le volet contentieux européen pur, sachant que dans le cas particulier des Russes, il y a évidemment un volet juridique, mais il y a aussi un volet contextuel, donc celui de quelle est la situation de la Russie aujourd'hui, et parlons franchement des oligarques, puisque c'est de ça dont il s'agit. Qu'est-ce qu'un oligarque et comment un oligarque est devenu ce qu'il est, alors qu'il y a 30 ans, en 89, le pays était encore communiste et légèrement arriéré sur le plan économique. Cette période-là, moi j'ai eu, je ne sais pas si c'est la chance, mais je la considère comme une chance, j'ai eu la chance de la vivre. J'avais 20 ans en 1989, donc je sais pertinemment ce qui s'est passé, et je suis passionné par l'histoire. Et donc j'ai essayé aussi d'apporter, à toute modestie gardée, une espèce de regard un peu
géopolitique
et historique sur comment quelqu'un qui était rien finalement jusqu'à la fin du bloc soviétique est devenu l'un des personnages ou parmi les personnages les plus riches au monde aujourd'hui. Quel a été le processus et comment ça s'est passé? Ce que nous, occidentaux, on a un peu du mal à comprendre puisqu'on prend comme exemple notre propre vision, elle. Donc effectivement, quelqu'un qui tout d'un coup détient 60 milliards de dollars de fortune, alors qu'il y a 40 ans, il n'était rien, on a un peu du mal à comprendre. On n'est pas dans le schéma des grands industriels occidentaux ou européens.
Alors que pourtant, aux États-Unis, Sergey Brin et compère...
Mais c'est les États-Unis, c'est pas l'Europe. L'Europe, c'est des grandes familles industrielles, il y a plus d'industrie. Donc on a un peu... Bon, bref, c'est compliqué. Donc oui, moi j'interviens là-dessus. Et puis après, il y a un volet financier sur les sanctions, notamment tout ce qui est dérogation, puisque ces gens-là, quand ils sont sous sanctions, leurs avoirs, leurs biens, leurs finances sont gelés, en tout cas sur le territoire européen, américain, australien, et les pays associés, hein, Suisse, Monaco, etc. Et il est gelé, mais pour autant, il peut être dégelé. Et donc, on gère toute la partie dérogation, c'est-à-dire qu'on demande aux États... De permettre le paiement de certaines choses qui sont indispensables pour la conservation des actifs, des choses comme ça. Donc cette partie-là étant une partie plus financière, ça se comprend aisément, c'est plutôt moi qui m'en occupe et Clarisse va plutôt s'occuper de la partie contentieuse pure et de répondre aux arguments, sachant que c'est un droit, on apprend, hein, enfin, qui correspond quand même pas mal dans sa conception, dans la manière dont il est fait, à du droit administratif et le droit fiscal et du droit administratif. Donc, il y a des similitudes, bien évidemment. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça. En tout cas, pour nous, je ne le trouve pas. Voilà.
Très clair. Et du coup, le droit pénal, les 30% de droit pénal, ça, c'est ta Madeleine de Proust.
Alors, le droit pénal, c'est ce que j'adore. C'est ce qui me donne envie le plus et ce qui me motive le plus. Moi, j'ai une particularité personnelle. Je ne vis pas à Paris. J'ai choisi, il y a quelques années, d'aller m'expatrier... d'aller m'éloigner, on va dire, du centre névralgique parisien pour aller vivre dans un endroit idyllique qui s'appelle la Corse. Et en fait, je ne quitte la Corse quasiment que pour aller plaider. Et là, je suis à Paris parce que j'ai 4 audiences, par exemple.
Non, parce que tu as envie de me voir.
Aussi, c'est vrai. Mais l'honnêteté me pousse à dire que je ne serais pas forcément venu s'il n'y avait eu que ça. Mais toute sympathie que je peux avoir à côté. Non, en revanche, j'adore vraiment ça. Pour moi, c'est un exercice incroyable. La plaidoirie, c'est vraiment... ce que je disais tout à l'heure, c'est déployer des arguments. Je n'ai pas besoin d'être convaincu, c'est ce que disent souvent les pénalistes de droit commun, je parle aux assises, etc., qui, quand on les interroge, qui disent... Moi, je n'ai pas besoin de savoir si mon client est coupable, pas coupable, etc. Bon. Moi, je dirais que la question, je m'en fiche un petit peu. Souvent, en matière de fraude fiscale, par exemple, la culpabilité, elle est tellement évidente du fait de l'administration fiscale que je n'ai même pas à me poser la question. Pour autant, j'essaie de me la poser. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est de raconter une histoire qui est crédible. Ce qui est compliqué, alors on ne fait pas des assises, donc ce n'est pas des grandes mises en scène, mais c'est des contextes qui sont très compliqués parce que la fraude fiscale est mal vue, médiatiquement parlant. La fraude fiscale ne fraude fiscalement que celui qui est riche. Le riche en France, c'est le paria de la société. Donc à partir du moment où on défend un riche, déjà on est mal vu. Ensuite, on a face à nous un juge qui essaie de faire son métier le plus objectivement possible, un parquetier qui lui est là pour... allumer, hein, pour défendre les intérêts de la société, donc faire condamner le prévenu. Et puis on a surtout une partie civile, qui est l'administration fiscale, et qui, contrairement à tous les autres procès en pénal, bah, nous, c'est toujours la même. Toujours. Donc la question se pose, c'est Vergès hein, qui avait défini ce terme-là, est-ce qu'on est dans la connivence ou est-ce qu'on n'est pas dans la connivence? Est-ce qu'on est dans la rupture? Et moi, je me pose la question à chaque fois, et j'ai plutôt envie d'être dans la rupture. C'est-à-dire que de toute façon, comme je sais que quasiment, de manière certaine, ou presque, mon client va prendre beaucoup, parce que l'administration fiscale est la sachante de l'affaire. Donc elle va déterminer que oui, il y a eu fraude et oui, c'était intentionnel. Donc matérialité, intentionnalité, l'affaire est pliée. Que les juges ne sont pas compétents en matière financière. Est-ce qu'il faut faire de la pédagogie et essayer d'expliquer que c'est pas aussi simple que ça en a l'air? Ou est-ce qu'il faut faire de la rupture en disant attention, ce qu'on est en train de juger, c'est de la fraude fiscale. Et donc c'est préjugé, sans mauvais jeu de mots, là où la fraude sociale est généralement plutôt laissée de côté en matière de sanctions. Bref, c'est toujours ce partage entre les deux, mais c'est ce qui donne le sel à mon métier, enfin mon métier d'aujourd'hui en tout cas.
Mais ça te donne surtout aussi une valeur ajoutée de dingue, parce qu'en réalité, être en capacité de pouvoir analyser, de pouvoir comprendre aisément tous les rapports financiers qu'il peut y avoir sur les différentes filiales, les différents patrimoines, les différentes...
Ça, c'est un plus.
C'est un peu dingue.
C'est un plus indéniable. Et alors, il y a un sujet sur lequel c'est particulier pour moi. J'en ai discuté souvent avec des confrères fiscalistes. C'est la TVA. La TVA, c'est un sujet assez fréquent en matière de fraude fiscale.
C'est super chiant et super complexe.
Alors, c'est compliqué, mais en fait, c'est de la compta. La TVA, c'est de la comptabilité. Et très souvent, des fiscalistes se cassent les dents sur la compréhension du schéma de TVA. Et on a eu un dossier il y a quelques années là-dessus où il y a eu 5 cabinets d'avocats qui sont passés, qui sont tous fracassés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris. Et j'ai aucune prétention en disant ça. J'ai regardé le dossier, j'y ai passé des heures et des heures et des heures, ça je l'avoue. Et tout d'un coup, j'ai eu le déclic, je me suis dit, mais en fait, j'ai compris. C'était un problème de fait générateur, peu importe, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais en fait, 5 cabinets étaient passés au travers sans le voir. Et pour le coup, il y a eu l'aspect fiscal qui était purgé, donc le client avait perdu. Mais le dirigeant de la société, grâce à cet argument-là qu'on a soulevé, il a été relaxé au pénal. Donc c'est plutôt un avantage, ouais, sur ce plan-là, c'est sûr.
C'est une belle idée. Il y a un avocat que j'ai interviewé il y a quelques années, que j'aime beaucoup, avec qui on travaille encore aujourd'hui, qui s'appelle François Mazou, qui était l'ancien directeur général de Capgemini et de la société Soprasteria. Mmh. Et il a un parcours, en certains traits, assez similaire au tien, où lui redevient avocat à 50 ans, etc. Donc pas mal de similitudes. Et je disais, putain, mais du pénal des arts, t'es à Marseille, ça doit être incroyable pour toi, réseau colossal au niveau du CAC 40, réseau colossal au niveau des ETI, tu dois aisément récupérer de la clientèle. Il me dit, Valentin, tu te trompes. Parce qu'en réalité, les copains et les connexions que j'ai faites dans ces entreprises-là, aujourd'hui, ne viennent pas me voir. Parce qu'en tant qu'avocat pénaliste, je ne suis pas encore assez expérimenté selon eux, ou en tout cas, je n'arrive pas à rentrer sur ces dossiers. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, il me l'a dit il y a quelques années. Est-ce que toi, tu arrives justement à faire levier avec ton réseau? Est-ce que tu arrives à l'utiliser? Ou est-ce que c'est compliqué?
Alors, c'est... Compliqué, c'est un terme que je n'aime pas. Donc, je vais dire que c'est compliqué parce que pour que ça le soit, il faudrait que je l'active. La vérité me pousse à dire que je ne l'ai pas vraiment activé. On a une chance, et encore une fois, je le dis sans prétention, on a à l'exception de la période du Covid, on a quasiment un pipe de clients qui se remplit d'un jour à l'autre. On n'est jamais en manque, c'est plutôt le contraire. Donc on n'a jamais vraiment de besoin d'aller chercher du client nouveau. Ça répond à une partie de ta question. L'autre question, j'ai quelques clients aujourd'hui qui sont des anciens clients ou des sociétés dans lesquelles j'ai travaillé et qui ont suivi ce que j'ai fait et qui font appel à moi. Pas en pénal, en fiscal, oui. Pourquoi pas en pénal? Alors, je pense qu'il y a aussi...
La pudeur.
Oui, c'est intime, le pénal. On se livre, on apprend des choses sur la personnalité de la personne qu'on défend. Et notre connaissance qu'on a pu avoir dans ma vie précédente, c'était une connaissance pas intime, c'était une connaissance professionnelle. Et donc, je pense que ça, c'est un frein évident. Mais il n'y a pas de frustration particulière. Je pense que, enfin, j'ai à l'esprit, par exemple, une entreprise dans laquelle j'ai œuvré pendant plusieurs années, dans le secteur de la téléphonie, où je suis resté en très bon contact avec le dirigeant. Et oui, on a plusieurs affaires ensemble, bien sûr. Donc, aucun problème là-dessus.
Très clair. Le schéma du cabinet que tu as dépeint lorsque tu es arrivé en 2015, c'était une associée, Clarisse Sand, un collaborateur et un stagiaire, plus toi qui est arrivé. Vous avez mis en place certaines choses, il y a eu des changements pendant le Covid, on l'a bien compris. Vous avez fait basculer le chiffre d'affaires où il était initialement fait à 90% ou 95% sur du fiscal, que ce soit en conseil ou en contentieux. Aujourd'hui, on a bien compris que ça avait changé. On est à 60% sur du droit communautaire et sur des sanctions, 30% sur du pénal, 10% sur du fiscal. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Comment est composé le cabinet? C'est quoi l'avenir de ce cabinet?
Alors, le cabinet, il est resté petit. Donc maintenant, il a deux associés. Donc Clarisse, qui est restée évidemment l'associée, elle est formatrice à l'origine. Moi, j'ai eu la chance de devenir associé de ce cabinet. Et on a juste deux collaborateurs. L'objectif, c'est de développer sans devenir une machine de guerre. C'est-à-dire qu'on n'a pas de velléité à 10 ou 12 ou 15, sauf si le business arrive de telle sorte qu'on est obligé. Mais la contrainte, j'aime pas trop ça, donc je préfère mettre les moyens et avoir le business qui vient plutôt que d'avoir le business et devoir chercher les moyens dans l'urgence, parce que c'est jamais les bons moyens qu'on met. Et là, je reviens sur mon parcours antérieur de chef d'entreprise. La France a un souci de particulier qui est très facile d'embaucher et toujours beaucoup plus facile de se délester. Même si dans le milieu des avocats, c'est pas des contrats de travail, donc c'est plus simple. Il n'empêche qu'il y a quand même toujours un caractère humain qui fait que c'est difficile d'arrêter une collaboration qu'on a commencée. Donc j'ai tendance à dire l'idéal la cible recherchée, c'est être deux associés, peut-être trois, j'en sais rien, avec une petite équipe qui dépasserait pas en tout 10 maximum. Si on a 7 collaborateurs, un peu de senior, un peu de junior et 3 associés, ça serait très bien. Voilà.
Est-ce que tu développes ton réseau de prescripteurs? Parce que je rencontre pas mal d'avocats, notamment en pénal des affaires, très certainement sur les contentieux communautaires, et peut-être également un peu sur le fiscal. La prescription des confrères est quelque chose d'important. Est-ce que toi, tu le considères? Est-ce que tu en rencontres? Est-ce que tu vas faire des efforts que tu ne fais pas aujourd'hui encore par rapport à ça?
Alors oui. Enfin, c'est déterminant, c'est majeur. Après, la séparation des fonctions autres que celle d'avocat dans le cabinet avec Clarisse a été, parce que c'est comme ça, je pense que c'est le credo à la fois le sien et le mien. Moi, ça a été plutôt l'interne, c'est-à-dire la gestion interne du cabinet, faire en sorte que ce soit une entreprise gérée comme telle. Et elle, ça a plutôt été d'aller chercher du business ou de développer la prescription. Alors, j'en fais sans en faire, mais oui, j'en fais un peu. C'est-à-dire qu'on a, à côté du cabinet, on a créé un institut spécialisé qui s'appelle l'IDPF2, donc l'Institut de droit pénal, fiscal et financier, dans lequel on a fait se réunir des avocats fiscalistes et des avocats pénalistes, donc ceux qui font que du fiscal, ceux qui font que du pénal, pour arriver à leur montrer, ou en tout cas à les faire réfléchir sur le fait qu'on pouvait peut-être faire les deux, et que des fiscalistes pouvaient aller vers le pénal, ou que des pénalistes pouvaient essayer d'aller vers le fiscal, ou tout simplement de créer des duos pour avoir une table de défense ou une équipe de défense qui tienne la route à la fois sur le plan technique et sur le plan de la procédure pénale qui est particulière. Grâce à ce réseau, il y a pas mal de pénalistes, moi, avec qui je m'entends très bien, et de fiscalistes aussi, mais de pénalistes avec qui je m'entends très bien. Oui, on arrive à travailler parfois ensemble, à s'apporter mutuellement du business quand l'un est surchargé ou quand, parce qu'il y a un conflit d'intérêts, il peut pas prendre tel ou tel dossier, ou nous, de la même manière. Mais pour répondre clairement à ta question, la prescription et aller chercher de la prescription, pour l'instant, je l'ai pas fait. Mais il faut le faire. Notamment si le vrai objectif, c'est ce que je disais avant, c'est d'être à 10, alors je ne sais pas sous quel terme, on va dire à moyen terme, 4-5 ans, oui, il faudra le faire. Je ne peux pas laisser ça reposer sur les épaules seules de Clarisse.
Très clair. Aujourd'hui, comment est-ce que tu fais en termes de notoriété? Alors, je parle de toi, mais bien sûr, évidemment, du cabinet. Comment est-ce que vous faites pour réussir à vous faire identifier? Parce que y a quand même des mastodontes sur le marché, il y a quand même beaucoup d'avocats qui sont présents sur le marché. À Paris, il y en a 30 000, tu rajoutes les Hauts-de-Seine, on en arrive quasiment à 40 000. On a plus de 200 cabinets d'avocats qui font plus de 50 avocats au sein de leur cabinet, rien que sur la capitale. Comment est-ce que vous faites pour vous faire connaître? Donc, j'entends bien l'Institut, qui est une super idée, qui permet bien sûr de mêler les compétences pénales et fiscales, mais aussi d'être identifié. Qu'est-ce que vous faites d'autre?
Alors moi, rien. c'est simple. Et pour le cabinet, Clarisse a fait pas mal d'articles, elle a écrit, elle fait des conférences assez nombreuses. Elle intervient beaucoup à l'international. Et c'est pareil, le réseau de prescripteurs ou le réseau de connaissances, on va dire, a beaucoup évolué avec le cabinet. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de prescripteurs, par exemple, il y a 5-6 ans de ça, qui étaient des gestionnaires de patrimoine, des banques privées, françaises et étrangères. Donc, Clarisse allait souvent pitcher là-bas sur ce qui se passait, ce qu'il fallait faire au moment des cellules de régularisation de Bercy, des choses comme ça. Aujourd'hui, elle va le faire un petit peu ailleurs. Moi, ma simple petite intervention, je publie pas beaucoup. J'aime bien écrire, mais j'aime bien écrire pour moi. J'aime pas écrire pour les autres, donc je publie pas beaucoup. Ma petite intervention publique, c'est tout simplement, je donne des cours à l'Université de Toulouse sur justement le sujet du pénal fiscal. Donc voilà, mais ça se limite à ça. Mais là encore, je pense que c'est quelque chose à développer. Il faut qu'on soit plus visible. Voilà. On ne l'est pas.
Très bien. Moi, en tout cas, tu viens sur le podcast et tu as accepté de venir, donc c'est déjà
un privilège que tu fais. C'est une manière de se faire connaître. Et puis, ce qui va nous différencier, enfin, je vais un peu au-delà de la question que tu poses, sur les autres cabinets, effectivement, les 45 000 cabinets qui composent le barreau de Paris, le barreau des Hauts-de-Seine, qu'est-ce qui nous différencie? L'ultra spécialisation, le marché de niche à l'intérieur d'une niche. Déjà, le pénal, c'est une niche, mais le pénal fiscal en particulier, mais financier au sens large, est une niche dans la niche. Et puis, ben, on est petit et on essaie, j'espère qu'on y arrive, d'être très réactif. C'est-à-dire qu'un client qui appelle, c'est un client, soit il nous joint tout de suite, soit on le rappelle dans les 24 heures qui suivent. Ça, je pense que ça a été une marque assez différenciante. Depuis, en tout cas, que je suis avec Clarisse, vraisemblablement avant aussi, mais j'étais pas là pour en juger. Mais c'est une marque de fabrique. On est très très réactif.
Voilà. Très clair. On arrive bientôt à la fin de cette interview. J'ai deux dernières questions à te poser. La première, c'est depuis que tu es avocat et que tu travailles ici, est-ce que tu pourrais nous partager une mauvaise expérience que tu as pu avoir? Je ne parle pas nécessairement au sein du cabinet, mais au sein de la profession. Quelque chose qui a été dur pour toi, peut-être une affaire que tu as pu traiter, que ce soit en pénal ou en fiscal, où tu as trouvé vraiment que la sanction ou la sentence n'était pas juste, qu'il y avait des éléments où tu as été vraiment mis à mal et qui a été dur pour toi. Et tu doutes bien le pendant de cette question, on finira par une note heureuse. Quelque chose dont tu es fier, qui s'est vraiment bien passé, dont tu es content dans cette vie professionnelle qui dure maintenant depuis quasiment 10 ans.
Ouais. Mauvaise expérience, c'est plus des mauvaises décisions que des mauvaises expériences. Moi, j'essaie de prendre à cœur tous les dossiers dont j'ai la charge. Encore une fois, je ne cherche pas à savoir si c'est bien, si c'est pas bien. Je suis pas juge et je suis surtout pas un moraliste. C'est pas le métier de l'avocat. J'ai pas à juger si mon client a bien fait, pas bien fait. Il a fait. On lui reproche des choses. À moi de sortir les arguments juridiques et non juridiques qui vont permettre soit d'avoir une relax, soit d'atténuer la sanction. La mauvaise décision, malheureusement, à laquelle je pense, c'est une décision qui, pour moi, est très exagérée par rapport aux faits. Sans revenir sur les faits précisément, mais en considérant qu'ils sont importants, malgré tout. Ils sont importants, mais il faut toujours regarder les faits par rapport à l'ensemble de faits délictueux qui existent dans un environnement, peu importe, de droit commun, de droit financier, de droit X ou Y. Les faits étaient importants en matière de fraude fiscale et de blanchiment. Important, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Okay. Donc c'est pour la plupart des gens, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Pour une entreprise, c'est finalement très peu. Et pour une très grosse entreprise, c'est infinitésimal. Donc, c'est là qu'il faut contextualiser. Les réquisitions du parquet étaient hystériques, folles, hallucinantes, dans une colère qui dépassait l'entendement même de la fonction de procureur. C'est-à-dire qu'un procureur doit se comporter comme un agent de la société, donc de l'État, de la nation qu'il représente. Il est l'avocat de la nation, le procureur. Donc il doit être mesuré dans ses réquisitions. Là, c'était fou. C'était du délire dans les réquisitions. C'est très difficile de plaider par rapport à des réquisitions comme ça. J'ai essayé. Manifestement, ça n'a pas suffi. Et la décision qui a été rendue par ce tribunal a été une décision qui allait au-delà des réquisitions. Et à la fin de l'audience, je suis allé discuter avec le procureur. On reste courtois, enfin, me semble-t-il. Et je lui ai dit que c'était, j'avais trouvé ça très exagéré, très, très, très surprenant. Et il m'a dit, j'y suis allé comme un fou. Je pense que l'étape d'après, c'était la condamnation à mort, avec une espèce de petit sourire narquois. Et oui, effectivement, je pense qu'il y est allé comme un fou. C'est une très mauvaise expérience pour moi. Très mauvaise.
Tu as réussi à discuter avec le juge derrière pour...
Non. Non. D'abord, j'ai pas eu le jugement tout de suite, je l'ai eu après. Et bien sûr, dans ce genre d'affaires, on n'a pas accès au juge a posteriori. On a fait appel, c'est pas la question. Et encore une fois, c'est un souvenir, ça reste pas une marque indélébile chez moi, mais j'ai trouvé une violence particulière dans cette audience qui a duré 6 heures. C'était compliqué. C'est un sujet assez compliqué de fiscalité internationale. À contrario, bonne expérience, j'en ai plein. J'en ai une qui est un petit peu anecdotique et marrante, on va dire, qui n'est pas du pénal. C'est un sujet fiscal, mais fiscal avec ceci de particulier, que c'était devant un tribunal judiciaire, donc ex-TGI, puisqu'en fait, c'était sur des droits de mutation et sur l'impôt sur la fortune immobilière, qui a remplacé l'ISF. C'était pour une péniche. Et moi, j'habitais sur une péniche avant. Et la question d'une péniche, c'est un bateau. Et question qui se pose, est-ce qu'un bateau sur lequel on habite...
C'est une maison ou c'est un bateau?
Voilà. Est-ce qu'il est soumis à l'IFI ou pas? Gros problématique. IFI, impôt sur la fortune immobilière, est-ce qu'un bateau est immobilier? Alors non, un bateau, c'est un bien meuble. C'est défini comme ça. Mais pourtant, l'administration fiscale me dit, oui, mais à partir du moment où vous habitez dessus... Moi, c'était pas pour moi, c'était pour un client, mais à partir du moment où la personne habite dessus... que le bateau est accroché à un quai, qu'il paye une taxe foncière, ce qui est le cas en région parisienne, qu'il ne peut pas bouger tout seul parce qu'il n'a plus de moteur, machin, etc., alors c'est un bien immeuble. Donc, il est soumis à l'IFI. Et je suis allé au tribunal, c'était à Nanterre, je me souviens très bien. Je crois que c'est la première affaire en matière d'IFI, parce que l'IFI a été créé en 2018 et ça doit être une affaire qui date de 2019 ou 2020, donc c'est la première jurisprudence d'IFI. Et quand je suis au tribunal, il n'y avait pas, l'administration fiscale n'était pas là. J'étais la seule à faire au rôle cet après-midi-là. Donc le magistrat était très sympathique. Il m'a dit, écoutez, on a le temps, donc expliquez-nous en quoi un bateau peut se déplacer alors qu'il n'a pas de moteur. J'avais une petite bassine avec un petit bateau à l'intérieur où j'ai mis de l'eau. Et j'ai mis, vous voyez, on peut regarder, on peut laisser la bassine posée. Vous allez voir que le bateau, imperceptiblement, bouge, même sans moteur. Et donc, une péniche, si on la détache, elle va bouger, ne serait-ce que par
le courant.
Bref. Donc, un immeuble, il ne bougera jamais. Ah, s'il y a un séisme, il bougera, mais on ne va pas le rendre meuble pour autant. Bref, c'était marrant, en fait.
c'est drôle.
Et on a gagné. Comme quoi, la certitude de l'administration fiscale, dans certains cas, est balayée par... la force de l'évidence. Et c'est ça qui fait le bien.
Parce que du coup, ils ne sont pas venus parce qu'ils étaient certains de leur fait. Des fois, ils ne viennent pas quand ils sont certains de ce qu'ils vont...
Non, ils ne sont pas venus parce qu'ils ne viennent jamais, en fait. Ils s'en foutent. C'est-à-dire qu'ils considèrent... Bon, là, c'est le tribunal judiciaire, c'est particulier, mais ils considèrent que c'est une procédure écrite, donc il n'y a pas besoin de venir plaider quoi que ce soit. Voilà, c'est un tribunal judiciaire, ce n'est pas des juges fiscaux. Enfin, ils en font, mais ce n'est pas leur métier premier. Donc, je trouvais que c'était bien de leur expliquer. Et puis surtout, on repartait à la base de la...
Du droit des biens.
Du droit civil, oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un bateau? C'est un bien meuble, c'est défini par l'article, j'ai plus en tête, 1300 et quelques codes civils. Donc, c'est un bien meuble, c'est tout. Il ne peut pas devenir immeuble par sa destination. Ça, ce n'est pas le cas.
C'est clair, très smart. Frédéric Niel, c'est le mot de la fin. Tu as la minute Frédéric Niel qui est à destination de tes clients, de ton associé, de tes collaborateurs, du marché, de tes confrères. C'est la carte blanche Frédéric Niel.
Carte blanche, c'est compliqué. Pour résumer, c'est quoi? Moi, je crois, au travers de ce podcast, avoir réussi, en tout cas j'espère, à démontrer que je suis quelqu'un de passionné. Je suis passionné par ce que je fais, et quand je m'emmerde, j'arrête et je fais autre chose. Ce métier, j'en ai fait plein dans ma vie. J'ai fait des choses qui étaient magnifiques, qui étaient inédites, qui étaient passionnantes, qui étaient surprenantes, qui étaient parfois incroyables. Mais ce métier-là, pour moi, c'est le plus magique qui existe. C'est un métier de rêve. Je le fais par passion. C'est pas une question pécuniaire parce que j'ai gagné beaucoup plus d'argent dans d'autres métiers avant. Ce métier, c'est plus un sacerdoce qu'un métier. C'est un vrai rôle à jouer. Et je pense que dans une société telle qu'elle existe aujourd'hui, Malheureusement, je suis un peu négatif là-dessus. L'avocat, il est déterminant. L'avocat, c'est le rempart absolu d'une hérésie autocratique. Lorsqu'il n'y a plus de droit dans un pays, on tombe dans un schéma et dans un régime qui n'est pas souhaitable. Il faut que le droit retrouve toute sa place et surtout qu'il ne soit pas remplacé par la morale. Morale et le droit, c'est deux choses bien différentes. Et donc, rien que pour ça, j'aime les combats, et j'aime les combats qui ne sont pas forcément dans la bien-pensance, dans la bien-séance. Voilà, j'aime me battre pour le compte de mes clients, parce que j'y crois, parce que j'ai une conviction chevillée au corps. Et si je prends l'exemple des droits internationaux et des sanctions, par exemple, je trouve que ce que fait l'Occident, l'Union européenne, les États-Unis, enfin, je parle surtout de l'Union européenne, c'est pas smart, quoi, vis-à-vis de certaines personnes. C'est grave ce qui se passe en Russie, c'est condamnable sur le plan moral et tout ce qu'on veut, mais nous, on défend des gens, je pense qu'ils n'ont strictement aucun rapport. Et rien que pour ça, le fait de défendre ces gens-là, je le fais avec la plus grande conviction et la plus grande force que je peux mettre dans cette action, et je le ferai jusqu'au bout, sans jamais m'arrêter. Donc voilà, moi j'ai une volonté absolue quand un client décide de venir nous voir, fait appel à nous, signe avec nous, il sera défendu jusqu'au bout, bec et ongles.
Eh bien, la carte blanche est signée Frédéric Niel. Merci pour le temps que tu m'as accordé et pour la qualité des échanges. J'ai pris beaucoup de plaisir sur ce podcast. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite, pour ton cabinet, pour toi. Et je te dis à très vite.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Et voilà, le podcast est fini pour aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous a plu, mais si vous en êtes arrivé jusque-là, je pense que oui. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le diffuser et à nous recommander des avocats que vous aimeriez voir sur ce podcast. Bonne journée et à très vite.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.